qu'est-ce qui est le combustible de notre foi. Et ce combustible, c'est la parole de Dieu. Et nous allons voir que c'est la parole de Dieu qu'ont transmis les prophètes de l'Ancien Testament, mais aussi qu'ont transmis les apôtres du Nouveau. Alors, je ne sais pas si vous, vous croyez, et là je cite Michel Onfray, que la Bible a eu son heure de gloire au temps de l'ignorance des civilisations enténébrées du Moyen-Âge et que sa place appartient au musée de l'histoire et aux oubliettes. J'aimerais que nous puissions lire ensemble ce que Pierre a à nous dire et prêter attention à ce qu'il veut nous révéler ce matin. Je vous invite à lire avec moi de Pierre 2, 1, 12 à 21. De Pierre 1, 12 à 21. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez établis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par mes rappels. Car je sais que je la quitterai soudainement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la sublime présence lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils ». Mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus ferme, d'autant plus sûre, la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne relève de sa propre explication. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est portée par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Avec Paul, pas l'apôtre, mais Paul Moncler, qui a étudié 2 Pierre 1, 4 à 11 il y a quelques semaines, on a vu que la vie chrétienne ressemble un peu à un parcours d'escalade. Alors, c'est moi qui ai pris l'image, hein, c'est pas de Paul, mais en fait, que même si tout nous est donné gratuitement pour l'escalade, les mousquetons, la corde nécessaire et même l'assurance d'arriver au bout, la vie chrétienne ne nous épargne pas des efforts considérables pour atteindre le sommet. Jésus n'a jamais promis que notre marche chrétienne serait facile. Au cœur de la marche chrétienne, la vraie, cette vie de disciple, la vraie marche chrétienne, il n'y en a qu'une. Il y a l'effort. Mais quel effort ? Le seul effort qu'on a pu voir au chapitre 1, à ces versets qui précèdent les nôtres, c'est que nos efforts doivent se concentrer sur une connaissance, la connaissance de Dieu, de ses promesses, de l'espérance fondée sur l'œuvre de Christ. Et cela requiert de notre part de la vigilance, car Pierre en était bien conscient, le danger était bien réel. En effet, les chrétiens de l'époque étaient en danger d'être entraînés par des faux docteurs, des faux enseignants. Alors, je ne sais pas où vous en êtes dans les circonstances de votre vie. Je ne sais pas si vous êtes conscient de la nécessité de faire des efforts, et si au milieu de votre quotidien c'était déjà difficile de maintenir l'existant avec un enfant qui vient d'arriver, qui bouscule toutes vos... ou un travail qui vous fatigue, des collègues avec lesquels vous avez beaucoup de joie à les voir, surtout le vendredi. Ou peut-être vous êtes dans une circonstance où au contraire votre vie est joyeuse. Mais nous devons réfléchir à même à des défis potentiels qui pourraient nous subvenir. Or, pour connaître Dieu, Pierre nous invite au souvenir, peut-être simple, mais déterminant, à savoir le souvenir que c'est Dieu qui soutient notre foi. Et il utilise deux moyens pour cela. Il utilise la parole des apôtres qui ont été les témoins oculaires, et ça sera les versets 12 à 18. Et il désire soutenir notre foi par la parole aussi des prophètes, porte-parole de Dieu par le Saint-Esprit. Alors quand on reprend notre texte, on se rend compte que Pierre ressent un besoin urgent de rappeler, on voit au verset 12, mais aussi de tenir en éveil par ses rappels, verset 13. Et pourquoi ? Pour un objectif précis, qu'ils se souviennent, verset 15. Même s'ils connaissent déjà la vérité, ils sont appelés à se souvenir. Pierre n'a pas de problème à répéter, d'ailleurs comme Paul l'apôtre cette fois, car il connaît bien la nature humaine et notre capacité à oublier. Je ne sais pas si vous lisez comme moi des dizaines et des dizaines de pages, et souvent on a une capacité à oublier les quelques pages qu'on a lues la veille. Notre vie évolue, nos circonstances changent, et c'est toujours dans de nouvelles circonstances, dans de nouvelles situations, dans de nouveaux contextes, que nous avons besoin de nous rappeler, de nous souvenir de l'œuvre de la grâce dans nos vies. Quand il nous semble avoir compris quand on est jeune, on devient étudiant. Quand il nous semble avoir compris quand on est étudiant, on devient un jeune couple, avec ou sans enfant. Quand on semble avoir compris, on intègre le travail et ses défis. Ou on intègre un, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis six, enfants, et les défis sont toujours là, nouveaux. La vie rebondit, et toujours avec ses défis, ses complexités, et toujours à nouveau déstabilisante. Alors nous sommes invités par Pierre au rappel. Rappel. Et il répète. Je sais que c'est désagréable parfois de devoir toujours répéter. Si vous avez un enfant, vous faites ça souvent. Enfin, moi, je fais ça souvent. Et je sais que c'est désagréable parfois de répéter, mais je pense que ça fait partie du régime quotidien. Des professeurs aussi sont constamment en train de répéter. Car nous sommes naturellement oublieux. Notre mémoire est loin d'être fiable. Elle ressemble un peu à un vieux disque dur usé qui sauvegarde de moins en moins les données sur Dieu. Et Pierre, à l'aube de sa mort, sans doute son martyr est proche. Jésus lui avait déjà annoncé ça en Jean 21, on le voit. Il veut transmettre un élément essentiel. Et vous savez, cet élément essentiel, c'est son statut d'apôtre, parce qu'il est le témoin d'une mémoire exacte des événements qu'il a vécus. C'est pour cela qu'il veut prendre soin, après son départ, que vous puissiez vous souvenir toujours de ces choses. Les commentateurs débattent sur toujours après sa mort, ils désirent conserver un témoignage. C'est quoi ce témoignage ? C'est sans doute pas sa lettre, mais c'est probablement ce que l'on sait de par la tradition, que Pierre a mandaté son collègue Marc pour écrire un témoignage écrit sur la vie de Jésus. Ça, c'est le verset 15. Quel commentateur pense que c'est de Marc, c'est son projet pour que le témoignage de Jésus puisse continuer à être connu et notamment puisse être annoncé par des témoins comme lui. Et ce qu'on voit dans notre texte, c'est, vous voyez qu'il y a des nous, il y a des vous. Et je pense que c'est intéressant, si vous lisez les épîtres, de faire cette distinction, de voir que les nous, c'est souvent les apôtres qui parlent. Les apôtres, c'est les témoins de Jésus, de sa vie, de sa mort. Et les vous, c'est souvent les chrétiens à qui il s'adresse. Pierre est intimement conscient de son rôle unique dans l'histoire. L'une fois pour toutes de la puissance et de la venue de notre Seigneur Jésus, verset 16. Car c'est la vérité présente dont il désire nous témoigner. Qu'est-ce que ça veut dire, vérité présente? Est-ce que Pierre serait déjà adepte d'une vérité qui serait variable? Non, je pense que la vérité présente, c'est la vérité qui vous a été présentée. Cette vérité concerne toute chose, nous dit le texte. La proclamation de l'œuvre de la grâce, qui veut restaurer, qui veut opérer cela dans les cœurs, pour des vies qu'il désire transformer. Et cette proclamation ne s'est pas faite du haut du ciel, nous dit Pierre, mais elle est venue en personne, sur la terre, par un homme au premier siècle de notre ère, qui a incarné en tout point tout ce que les hommes aspirent. Il a donné l'amour pour ceux qui le détestaient, il a subi l'injustice pour ceux qui étaient, pour notre justice. Il vient pour servir au lieu d'être servi. Cet homme, nous dit Pierre, a vécu. Il fait partie de notre histoire. Elle est fondée sur des faits, dans des zones géographiques que nous connaissons, au Moyen-Orient, en Palestine, avec des empereurs que nous connaissons, avec des rois que nous connaissons comme Hérode, avec des gouverneurs comme Pilate que nous pouvons connaître à travers des écrits, dans des musées qui sont aujourd'hui consultables. Notre foi ne repose pas sur des principes moraux ou une sagesse qui nous permettrait de bien vivre. Effectivement, notre foi nous place sur le chemin de la volonté de Dieu avec des principes, des sagesses que même les philosophes athées comme Michel Onfray ou Luc Ferry nous reprennent. Mais notre foi ne repose pas sur un discours ou un récit mythique dans lequel nous tirerions des principes pour notre vie. Non, non, non. Verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Dans le Nouveau Testament, et notamment le témoignage des apôtres sur la vie de Jésus ne sont pas des histoires inventées, produits de la tradition, un peu comme le téléphone arabe, vous savez. Au bout de la troisième fois que vous avez la transmission, vous n'êtes plus sûr de rien. Une rumeur qui se serait amplifiée, qui serait allée bien au-delà de la réalité, et dans laquelle nous serions appelés à faire du nettoyage pour chercher à retrouver véritablement le vrai Jésus, vous savez, le Jésus de l'histoire, pas le Jésus de la tradition, qui est le produit du rêve de l'Église. Non. Et produit de l'hallucination collective, produit de l'imagination. Pierre, de dire ce que nous affirmons n'est pas le fruit de notre imagination débordante, non, notre privilège, même si vous le contestez, c'est d'être apôtre. C'est-à-dire d'avoir vu et d'avoir entendu une approbation divine de Jésus, cet homme. Pierre nous rappelle des faits, et pas n'importe lequel. C'est un événement exceptionnel. Ce que l'on appelle couramment dans nos milieux la transfiguration, et que nous avons lu tout à l'heure. Les témoins étaient Jacques et Jean, et Pierre aussi, et surtout Jésus. Le spectacle était vraiment à couper le souffle. Un peu comme lorsque vous voyez quelque chose d'extraordinaire se passer devant vous, un exploit que vous avez du mal à discerner, comme un immense tour de magie qui semble si réel que vous en êtes perplexe, mais qui nous marque, qui nous rappelle l'événement, nous montre la confusion dans laquelle étaient les disciples. Même Pierre, il est complètement perdu. Jésus, pour vous décrire rapidement la scène, il est entouré d'une nuée qui rappelle la nuée de l'Exode, de la présence même de Dieu. Et même si notre texte ne nous le dit pas, Jésus était en train de parler avec Élie et Moïse. Et il reçoit du ciel une parole de Dieu son Père, nous dit notre texte, l'honneur et la gloire, l'approbation. Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ainsi, lors de cet événement, Jésus, l'homme de l'histoire, l'homme de l'histoire qui a vécu au premier siècle, je répète, mais l'homme de l'histoire a reçu l'approbation de Dieu comme étant le Fils, le bien-aimé, le choisi, l'élu, tant attendu. Cela résonne, ça fait écho pour un juif à toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Et c'est toute la manifestation de Dieu qui est associée et dont les apôtres sont les témoins. Mais dans un temps comme le nôtre, où il devient de plus en plus difficile de croire à une vérité, est-il encore possible de croire à cette vérité? Pierre nous dit, et son témoignage est bouleversant, vous pouvez y croire parce que je viens bientôt mourir pour ce témoignage. On sait que Pierre est mort martyr. Mais en plus, Pierre leur dit, écoutez-moi. Et vous savez pourquoi il dit, écoutez-moi? Parce que dans notre texte, la voix qui est venue du ciel, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, ne relate pas toute la voix que Pierre, Jacques et Jean ont entendue. Si vous connaissez ce texte, si vous allez le voir, vous allez voir que la voix a dit quelque chose de plus, mais que Pierre ne relate pas. La voix disait aux apôtres, écoutez-le. Pierre l'enlève parce qu'il est intimement conscient que c'est maintenant eux que les chrétiens doivent écouter. C'est eux les témoins de la résurrection. C'est eux les témoins de l'histoire. C'est eux les témoins oculaires de notre foi. C'est eux que nous devons écouter. D'ailleurs, j'ai un ami qui a été témoin oculaire d'une agression en plein jour. Choqué, il est de suite allé porter secours à la personne, l'encourager à se rendre au commissariat le plus proche. Il est allé avec elle et la personne qui a été l'objet de l'agression a témoigné. Mais surtout lui, ce qu'il a fait, c'est qu'en tant que témoin oculaire, il a confirmé la situation qui s'était passé, l'événement qui venait d'avoir lieu. Pour le policier, le simple fait d'avoir été témoin oculaire était en soi une preuve suffisante pour engager des poursuites et attraper cette personne, ce qui a été fait. Le témoignage de Pierre pèse lourd. Si vous lisez Marc, vous verrez que Pierre et les apôtres étaient loin des personnes facilement crédules, susceptibles de croire des choses exceptionnelles, on pourrait dire des esprits primitifs, capables d'eau. Non, vous verrez qu'ils avaient beaucoup de mal à croire ce qu'ils voyaient. Ainsi, comme tout le Nouveau Testament est rédigé par des apôtres ou des proches des apôtres, c'est à tout le Nouveau Testament que nous pouvons nous fier. Et c'est vers lui que nous devons puiser le secours de nos et le souvenir. Souviens-toi de Dieu, que Dieu soutient ta foi par la parole des apôtres, des témoins oculaires, et que ta foi repose sur des faits bien connus de l'histoire et dont les témoins les plus proches en ont rendu compte. Je ne sais pas si vous cherchez peut-être une rencontre avec Dieu pour le questionner. Écoutez, je vous en supplie, écoutez la parole des apôtres. Allez voir dans les évangiles les biographies les plus proches de Jésus et faites confiance à leurs témoignages plutôt que dans le dernier, le monde des religions. Débarrassons-nous peut-être de toutes les images de Jésus, médias, famille, église, pour découvrir le vrai. Et à coup sûr, vous allez être surpris. Vous allez être ébloui, peut-être ébranlé. étonné de la manière avec laquelle Jésus n'aimait pas les religieux, avec laquelle Jésus aimait les gens qui, à première vue, n'étaient pas aimés par les autres. Il aimait les personnes rejetées. Vous allez être surpris par Jésus. Je vous encourage à découvrir le message des apôtres et nous à nous souvenir que cela repose sur du solide. Mais le deuxième point que le texte nous amène à découvrir, c'est que nous aussi nous avons à nous souvenir que Dieu soutient notre foi aussi par la parole des prophètes. Pierre ne s'arrête pas seulement au témoignage des apôtres, il ajoute des témoins supplémentaires. Et ils sont nombreux. C'est le témoignage de la parole prophétique. Toute la Bible, pas seulement la parole des apôtres, nous aide à nous souvenir que Dieu veut soutenir notre foi. Pierre n'est pas le seul. Il associe une nuée de témoins. Pierre et les apôtres ont relu l'Ancien Testament suite à la crucifixion et à la résurrection de Jésus. Et ils ont pris conscience que tout l'Ancien Testament témoigne à une attente. Et il l'a décrit de manière magnifique au verset 19 que je vous invite à lire avec moi dans votre tête. Et nous tenons pour d'autant plus sûr la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Qu'est-ce qui pourrait être plus sûr qu'une déclaration venant du ciel ou que des témoignages oculaires? Avec Calvin et Blocher et d'autres, nous pensons que la parole scripturaire, la parole écrite, est plus sûre, non pas en soi, car c'est la sûreté absolue des deux côtés, mais par rapport aux interlocuteurs, à ceux qui en sont les bénéficiaires. La parole prophétique nous renvoie à l'Ancien Testament tout entier et non seulement à certains textes qui nous parlent de Jésus. Elle nécessite toute notre attention. Car dans ce lieu obscur, comme l'Ancien Testament le décrit avec force, un temps de tristesse, d'épreuve, d'inquiétude palpable et même d'attente souvent insatisfaite. Dans ce lieu obscur, la parole des prophètes, celle ces porte-paroles de Dieu, elle brille. Même si elle n'est pas très visible, elle brille déjà, toutefois, jusqu'au moment où le jour vient. Ce jour où, comme l'étoile du matin, sans doute, notre nom pour la planète Vénus, qui se lève, l'étoile qui se lève juste avant que le soleil arrive, trouve sa pleine révélation en Jésus-Christ. Et cela par l'œuvre du Saint-Esprit. Dieu qui fait de vous ses enfants. Comme lorsque vous prenez vos affaires et que vous partez pour une randonnée tôt le matin, il ne fait pas encore jour, vous avez la lampe frontale, et quand vous arrivez au bas de la montagne, avec la lampe frontale, vous débutez l'ascension, mais même s'il fait nuit, vous savez que le soleil va bientôt se lever et que la lumière va bientôt éclairer votre marche. Les prophètes de l'Ancien Testament étaient navrés de voir le peuple d'Israël si peu attaché à son Dieu. Ils étaient navrés de voir l'injustice parfois régner même parmi les dirigeants de son peuple. Mais les prophètes des Moïse ont annoncé que le temps qu'ils vivaient n'était qu'un temps d'obscurité et de ténèbres. Ils attendaient, si vous parcourez l'Ancien Testament, vous verrez que Moïse a prophétisé un prophète comme lui qui allait venir. L'auteur du livre de 2 Samuel a parlé d'un roi comme David, dont le règne n'aurait pas de fin. Ésaïe a prophétisé un serviteur qui prendrait la condamnation, les fautes de son peuple. Daniel a prophétisé un fils de l'homme d'origine divine qui viendrait pour établir la justice. Comme le début de cette ascension, l'Ancien Testament, la parole des prophètes nous prépare à recevoir la parole de Jésus, non pour le monde, mais pour nos cœurs. L'Ancien Testament découvre le temps de l'obscurité et il fait souvent écho à notre vie. Chacun de nous, je pense, passons par des temps d'obscurité, dans cette obscurité, nous aspirons peut-être à voir la lumière, une lumière de vie, d'amour, d'espoir. Une lumière ne se lève que lorsque vous décidez de suivre Christ et de vous y attacher. Le Saint-Esprit alors illumine vos cœurs d'une lumière que lui seul peut vous donner. Ainsi, sans cette préparation de l'Ancien Testament, comment pourrions-nous comprendre la venue d'un Sauveur? Et cela d'autant plus fermement, nous dit le texte, versets 20 et 21, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne relève de sa propre explication, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est portée par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ainsi, aucune parole de l'Écriture de l'Ancien Testament ne relève simplement du prophète et de l'explication du prophète. Sans doute meilleure explication qu'une interprétation particulière. Non, aucune écriture de l'Ancien Testament n'est seulement humaine, n'est seulement le fruit d'une volonté humaine. Même si les auteurs ont été des hommes, toutes ces paroles ont été comme portées par le Saint-Esprit, garantissant son origine divine. En conclusion, j'aimerais vous partager plusieurs témoignages. Je connais une personne dans cette assemblée qui s'appelle Pierre. Pierre n'était pas chrétien, mais un jour, il s'est intéressé à Dieu. Et je ne sais plus pourquoi exactement. Toutefois, il a compris une chose, c'est que la foi chrétienne, c'était intimement lié à la Bible. Alors, il a commencé à la lire quasiment d'un trait. Et il a lu toute la Bible. Et de conclure après celle-ci, une telle parole ne peut être que celle de Dieu. Je me rappelle aussi le témoignage d'Émile Caillé, professeur de philosophie à la faculté de Princeton. Pendant ses études, en France, il était agnostique. Toutefois, il fut enrôlé lors de la Première Guerre mondiale et il dit lui-même, l'insuffisance de mon point de vue sur la situation humaine m'a bouleversé. À quoi sert le blabla philosophique quand votre camarade meurt par une balle dans la poitrine pendant qu'il vous parle de sa mère? Face à cela, il s'est mis à chercher un livre qui le comprenne. Et comme il n'en connaissait aucun, il a décidé de l'écrire lui-même. Il a passé des années à noter sur un petit cahier toutes les citations qui pouvaient le marquer, qui pouvaient lui donner de l'espoir, qui pouvaient le libérer de ses craintes, libérer de la peur, de l'angoisse. Un jour, il s'est même assis sous un arbre pour lire sa précieuse compilation. Mais plus il avançait dans sa lecture, plus un sentiment de déception profonde l'envahissait. Chaque citation lui rappelait les circonstances de son époque, mais ces circonstances avaient changé. Il écrit, « J'ai su alors que mon entreprise était vouée à l'échec, car elle n'était que le produit de mon propre cœur. » Le produit de mon propre cœur. Presque au même moment, par hasard, avec un grand D, sa femme revint de promenade avec leur enfant en poussette. Elle portait une Bible en français offerte par un pasteur qu'elle avait rencontré en chemin. Caillé, ce prof s'est saisi et l'a ouvert aux évangiles. Il a lu jusqu'à la nuit tout l'évangile. Comme par miracle, celui qui parlait et agissait dans ce livre, il écrit, était devenu vivant dans mon cœur. J'avais trouvé un livre qui me comprenait. Tim Keller, qui raconte cette histoire, dit que c'est la même chose qu'il a vécu. Pour moi, je dois vous dire aussi que c'est la même chose que j'ai vécu. Même si j'avais cru pendant ma jeunesse que la Bible était la parole de Dieu, je n'avais jamais personnellement rencontré le seigneur de cette parole. Savez-vous que la Bible est le livre aujourd'hui, au titre des 50 dernières années, qui est le best-seller des best-sellers? Il a été vendu à plus de 4 milliards d'exemplaires. Loin derrière le livre de Mao, en 820 millions. Si vous n'avez jamais lu la Bible en entier et que vous en parlez souvent sans avoir jamais l'avoir lu, je vous encourage à considérer cela comme une priorité. Juste par respect intellectuel. Et avec la volonté de découvrir cette parole pour vos cœurs. Cette année, avec mon épouse, nous lisons 4 chapitres par jour avec un livre qui les commente. Et je vous garantis qu'on est vraiment encouragés. Que vraiment le plus grand nombre puissions-nous puiser à cette parole qui est là pour être notre carburant. Sans ce carburant, nous pourrions nous dessécher. La Bible est la parole de Dieu. Elle est portée par le Saint-Esprit pour réjouir nos cœurs, pour nous donner une espérance vivante quand les circonstances sont difficiles comme les nôtres actuellement en tant qu'Église, et pour surtout nous donner un héritage, la vie éternelle, à savoir connaître Dieu et être connu de lui toute notre vie. Puissions, par notre lecture, par cette lecture, par son étude, à plusieurs ou seuls, faire la rencontre du Seigneur de la parole. Je vous invite à prier.